Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Cela fait partie des passages obligés pour tout président français désormais, promettre la fin de la France-Afrique. Nicolas Sarkozy s'y était engagé, tout comme son successeur François Hollande. Emmanuel Macron n'a pas dérogé à la règle lors de sa tournée africaine qui l'a conduite du Burkina Faso jusqu'au Ghana en passant par la Côte d'Ivoire. Mais il en a sans doute accentué le trait. Je ne suis pas venu vous dire quelle est la politique africaine de la France comme d'aucuns le prétendent, a expliqué le président français aux étudiants à Ouagadougou, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Une déclaration forte pour un discours important, parasité par ce que l'on pourrait appeler le Climgate, une blague à l'égard du président burkinabé à propos d'un problème de climatisation, considéré par certains, cette blague, comme particulièrement condescendante. Alors c'est un peu le problème d'Emmanuel Macron, sa conception décontractée de la diplomatie qui masque parfois le fond. De sa première rencontre avec Donald Trump, par exemple, on aura surtout retenu le concours de poignée de main. Pourtant, du fond, il y en a. Il suffit de relire le discours sur l'Europe prononcé à Athènes début septembre pour s'en persuader. Du fond et peut-être aussi du changement. Avec Emmanuel Macron, note Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, la notion d'intérêt est clairement assumée, sans négliger celle des valeurs. Alors la diplomatie Macron, changement de style ou changement de fond? Eh bien, c'est la discussion que nous allons avoir ce soir en compagnie de deux des membres de notre club, deux producteurs de France Culture. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Vous produisez La Suite dans les idées chaque samedi à 12h45. Vous êtes par ailleurs professeur associé à l'EHESS. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Le tour du monde des idées, c'est du lundi au vendredi à 11h53 sur France Culture. Vous avez signé aux éditions de l'Observatoire Macron, un président philosophe. Je le dis comme ça, vous ne serez pas obligé de
voilà.
Vous redire.
Hein, faites votre boulot, je ne ferai pas le vôtre.
Comme
ça.
Vendredi dernier. Et puis notre troisième invité, je l'ai cité en introduction, c'est Thomas Gomard. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vos travaux portent notamment sur la politique étrangère française et vous avez publié en début d'année ouvrage sous votre direction et sous celle de Thierry de Bombrial chez Odile Jacob, Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France. Alors je voudrais qu'on démarre cette discussion avec la tournée africaine d'Emmanuel Macron et ce que j'ai ironiquement appelé le Climgate. Pardonnez-moi, vous voyez, j'ai voulu inventer un nouveau terme, j'ai un petit peu du mal à le prononcer, on ne va pas y passer très longtemps, mais je rappelle juste les faits. Donc ça se passe devant les étudiants burkinabés à Ouagadougou. Il y a Emmanuel Macron qui est interpellé par une étudiante à propos des problèmes d'alimentation en électricité dans les universités du Burkina Faso. Il lui répond ceci: vous me parlez comme si j'étais une puissance coloniale, mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso, c'est le travail du président. Et là il désigne le président burkinabé Rock Kaboré, qui se trouve dans la salle, mais qui est en train de se lever, dit-on, pour une petite urgence. Et là, il l'interpelle, il dit, voilà, du coup, reste. Ah non, il s'en va. Et puis, il ajoute, il est parti réparer la climatisation. Alors, ça a été énormément commenté, peut-être même d'ailleurs davantage que le reste, malheureusement, du discours d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous qualifieriez cette blague, et peut-être quoi, une mauvaise blague, c'est une maladresse ou c'est une manifestation de paternalisme, comme certains ont pu le dire, Thomas Gomard?
Bon, moi, j'y vois pas une manifestation de paternalisme particulière. Il y a eu d'autres moments intéressants dans cette discussion avec les étudiants. C'est plutôt le rapport direct aux étudiants que je retiens. Il y a aussi eu une sortie assez vive sur le rôle des soldats français, qui me semble plus importante dans la dimension politique que cet épisode sur la climatisation.
Sylvain Bourmeau.
Mais encore une fois, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron laisse transparaître, j'allais dire presque à son corps défendant, une façon d'être au monde dans une situation dans laquelle il est en face à face avec des gens qui ne sont pas, pense-t-il, du même univers social que lui. Ça a été le cas dans des situations pendant la campagne électorale sur le terrain. Ça a été le cas, on s'en souvient, avec les ouvrières de l'abattoir GAD. Il y a un certain nombre de maladresses répétées d'Emmanuel Macron qui en disent long sur sa manière d'être au monde et la façon dont il voit les autres, au-delà de ce qui est évidemment préparé, tenu.
Alors, donc ce n'est pas une maladresse qui serait spécifiquement liée aux relations entre la France et l'Afrique, mais ça tient plus du caractère d'Emmanuel Macron, c'est ça ?
Ben, je pense que ça tient d'une forme de condescendance qui peut s'exprimer, encore une fois, involontairement probablement. Je ne pense pas qu'il ait décidé d'arriver en Afrique comme il avait décidé d'arriver dans une usine en étant désagréable avec les gens qu'il aura en face de lui. Mais voilà, c'est plus fort que lui. Ça sort et ça dit quelque chose, à mon sens, d'Emmanuel Macron. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est pas du tout la même chose que le discours de Dakar de Sarkozy qui a été écrit par Guénaud et qui énonçait une relation politique, je dirais, à l'Afrique qui était plus que problématique. Je pense que Macron serait bien incapable d'avoir préparé une telle gaffe. N'empêche que cette gaffe, elle n'est pas insignifiante. Elle signifie beaucoup. Et c'est par exemple ce que dit très bien, à mon avis, un des meilleurs spécialistes de l'Afrique en France, le journaliste Vincent Hugueux, dans un article de l'Express.
Brice Couturier, c'est une gaffe ?
Alors, le climate gate, c'est visiblement typiquement ce qu'on appelle une anecdote journalistique montée en mayonnaise pour essayer de faire oublier le fond du problème. Ça n'a strictement aucun intérêt, mais évidemment, les journalistes n'ayant pas la patience de lire les discours ou de les écouter en entier, se focalisent sur des aspects totalement anecdotiques et totalement dénués d'intérêt.
On ne peut pas dire ça de Vincent Hugueux, Brice. Il a par ailleurs fait son travail d'analyse du discours
comme
spécialiste de la politique africaine.
Je crois que vraiment le public français a envie qu'on sorte de ces procédés lamentables qui consistent à essayer de dévaloriser la parole politique en la réduisant à des anecdotes inessentielles, sans intérêt, mais commentées à loisir par les chaînes d'infos en continu qui n'ont rien d'autre à dire et qui ont très peu de compétences en la matière. Donc on ne parle pas du sujet. Moi, j'aimerais qu'on parle du sujet. Il y a une politique africaine de la France. Elle est en train de changer, manifestement. Macron a des idées sur ce sujet. J'aimerais bien qu'on vienne au fond et qu'on arrête de s'embêter avec des anecdotes, encore une fois, sans intérêt. Et
j'ai bien dit qu'on n'allait pas y passer très longtemps. C'est quand même une anecdote qui révèle, en tout cas pour certains, autre chose que quelque chose de purement anecdotique. Et il a répondu d'ailleurs, il y a répondu en disant que selon lui, les vrais paternalistes, puisqu'on lui reprochait ça, ce sont ceux qui considèrent que l'on ne peut pas faire de l'humour avec un dirigeant africain. Alors vous avez dit, évidemment, le fond, c'est ça qui est le plus important, il faut parler de la politique africaine. J'ai presque envie de vous dire objection, cher Brice Couturier, car Emmanuel Macron dit justement, je suis venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous, Thomas Gomard ?
Ça veut dire qu'il cherche, lui aussi, à rompre avec les habitudes de ce qu'on appelle rapidement la France-Afrique. Et c'est quoi la France-Afrique ? Ça nous renvoie à l'héritage des décolonisations de 1962. Je pense qu'il y avait deux piliers principaux. D'une part, tout ce qui avait trait à la coopération, enfin la coopération, ou plutôt à l'utilisation des ressources énergétiques, et le fait que l'indépendance énergétique de la France passait en grande partie par l'exploitation de ressources énergétiques sur le territoire africain, dans des pays notamment comme le Gabon, et d'autre part, sur des accords de sécurité et de défense avec un certain nombre de pays. Certains de ces accords comportant des clauses encore secrètes jusqu'à nos jours. Alors, rompre avec ça, c'est extrêmement difficile, parce qu'en réalité, l'Afrique est un objet de convoitise pour toutes les puissances extérieures, plus seulement la France, je dirais. Il y a une arrivée extrêmement massive de capitaux chinois, de capitaux turcs, de capitaux saoudiens. Je pourrais décliner la liste plus longuement.
D'autres l'ont promis avant lui, hein, Nicolas Sarkozy, ouais. François Hollande, à chaque fois, il disait... Voilà.
Alors ça, ce sont effectivement des liens qui sont très difficiles à desserrer, parce qu'il y a des effets d'habitude et en même temps de régimes qui fonctionnent avec des effets de rente énergétique de manière très, très, très importante. Et puis, là où il y a une continuité, à mon sens, et que c'est probablement difficile de modifier cette politique africaine, c'est qu'en réalité, quand on regarde l'orientation qui est prise en matière de sécurité et de défense par Emmanuel Macron, il y a eu le travail de la revue stratégique qui a été remise au mois d'octobre, d'Afrique, apparaît comme un enjeu prioritaire, puisque nos forces sont engagées dans la bande sahélo-sahélienne et qu'on sent bien qu'une partie des enjeux de sécurité à 10 ou 15 ans vont venir de l'Afrique subsaharienne et que par conséquent, le dispositif militaire français mis en place depuis des années, à mon avis, a vocation à perdurer.
Est-ce que vous voyez tous les trois dans le contenu du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, qui est un discours dense et assez important, avec une série d'engagements forts, une sincérité, disons, dans la volonté de rompre avec la France-Afrique? Brice Couturier, ensuite Sylvain Bourmeau.
Écoutez, là, c'est difficile de juger de la sincérité d'un homme politique. Par définition, c'est un sujet épineux parce qu'ils le sont rarement. Dans le cas de Macron, oui, ça me paraît assez clair, mais à mon avis, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est quand il a dit « Je suis comme vous d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. La décolonisation a maintenant plus d'un demi-siècle derrière elle, donc deux générations sont passées. Et j'ai trouvé intéressant qu'il mette en avant sa propre jeunesse pour dire que lui, il est né après les décolonisations, donc il n'est pas dans une logique post-coloniale.
Il faut dire qu'il s'adressait aussi à des jeunes.
Il s'adressait à des jeunes, et lui-même, il a 40 ans, donc effectivement, il est né largement après les processus de décolonisation. C'est très important parce que c'est une façon de considérer enfin les Africains comme des égaux, pas des gens empêtrés toujours et encore dans l'idée post-coloniale. Non, on n'en est plus du tout là. Les États africains sont des États modernes. Certains d'entre eux connaissent des développements vertigineux avec des croissances extrêmement fortes. Il faut cesser ce paternalisme imbécile qui consistait à considérer effectivement les Africains comme des néo-colonisés, n'assumant pas leurs responsabilités. Ils les assument fort bien et il faut que la France, effectivement, arrête de se comporter de manière paternaliste à l'égard de ces États africains et surtout de leur société qui sont extrêmement dynamiques.
Est-ce qu'il y avait un discours paternaliste de la France avec l'Afrique avant Macron? Et est-ce qu'avec Macron, Sylvain Bourmeau, on peut avoir le sentiment qu'on est en train de changer justement ce discours pour des raisons peut-être, comme l'évoquait Brice Couturier, générationnelles?
Ça pose la question aussi de la place qu'on accorde au discours dans l'analyse d'une politique publique. Emmanuel Macron a dit qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Il le dit dans un discours. Et alors on va examiner ce discours pour savoir si effectivement il n'y a plus de politique africaine de la France. C'est un peu court. Pour savoir s'il n'y a plus de politique africaine de la France, nous avons besoin de regarder beaucoup plus en détail un certain nombre de décisions politiques qui sont prises par la France à travers sa représentation dans les ambassades françaises, par exemple, à travers d'autres types d'interventions internationales diverses. Une politique étrangère, ça ne se résume pas aux grands discours prononcés par les chefs de l'État. Ces grands discours, c'est la partie visible de l'iceberg, mais enfin, c'est rien. Et donc, on est dans une situation difficile. Je pense qu'on pourra sérieusement évaluer tout type de changement de cette politique africaine de la France que dans bien des années, quand on aura eu accès à la manière dont un certain nombre de décisions auront été prises.
Donc, Sylvain Bourmeau, vous dites les grands discours, c'est rien. J'ai envie de vous renvoyer.
Oui, parce que
souvenez-vous, Barack Obama, quand il fait son discours au Caire, on est en 2009. Alors, c'est un discours qui a énormément contribué à lui valoir le prix Nobel de la paix, qui a été marqué quand même comme un tournant, une façon de... Voilà, le nouveau départ entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre béninois, qui commentait l'autre jour justement le discours d'Emmanuel Macron, faisait justement un parallèle en disant, bah voilà, c'est peut-être l'équivalent pour Emmanuel Macron de ce qu'a été le discours du Caire pour Obama, qui n'était pas juste un discours, même si derrière, toutes les décisions n'ont pas suivi, mais ça a quand même eu un impact assez important.
J'ai un peu de mal, enfin, je veux dire, quand j'entends l'un, quand j'entends l'autre, pour moi, ne serait-ce que si il s'agit de comparer des discours, puisque on n'a que ça en fait pour évaluer. Voilà, on n'est pas tout à fait, à mon sens, au même niveau ni de la qualité littéraire du discours, etc., ni de l'incarnation.
Alors oui,
on a des problèmes de son.
On a des gros problèmes de son. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu un Larsen, manifestement, oui. Sylvain Bourmeau, tout le monde est encore en vie, je rassure les auditrices et les auditeurs. Hein. Brice Couturier, vous êtes là, Thomas Gomard aussi. Sylvain Bourmeau, je vous laisse poursuivre.
Oui, donc je disais que...
Sabotage.
Je disais au fond que finalement, on n'a que les discours pour juger. Et de ce point de vue-là, le parallèle me semble un peu hasardeux entre les prises de position et les discours. Mais ça vaut pour tous les discours. Je veux dire, rappelez-vous du discours de Barack Obama le soir de son élection à Hyde Park à Chicago. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de Barack Obama Obama dans l'histoire politique récente, hein, donc c'est pas pour dire que tous les autres sont de mauvais orateurs. Simplement, là, on a carrément quelqu'un qui mérite le prix Nobel du discours hors catégorie, bien sûr. Donc, voilà. Mais je voudrais insister sur ce fait qu'on ne peut pas sérieusement parler de politique étrangère si on s'en tient simplement au discours. Ça veut pas dire qu'il faut pas prêter une oreille au discours, puisque la politique étrangère, elle a cette part symbolique extrêmement importante. Donc, quand Emmanuel Macron dit... ça sera forcément différent parce que j'ai l'âge que j'ai et donc j'ai vécu à un moment de décolonisation. Bon, ok, c'est un fait. En même temps, ce serait être un peu naïf de penser que la décolonisation de l'Afrique s'est totalement achevée avec l'indépendance des États. Il y a eu d'autres formes de relations de dépendance étroite et on y est encore aujourd'hui au plan économique très très fort dans les années 70-80. Ce que ça veut dire, à mon avis, moi je l'interprète comme ça, il n'y a plus de politique africaine de la France. Ça veut dire tout simplement que la France n'a plus aujourd'hui les moyens en Afrique de mener le même type de politique qu'elle a pu mener pendant très longtemps parce que, comme le disait Thomas Gobard, il y a énormément d'autres présences très très puissantes, à commencer par celle de la Chine ou celle des Émirats. Ou de... bon. Donc je pense que ça veut d'abord dire ça. C'est une forme de réalisme au fond que cet aveu.
Il y a du réalisme dans cette formule. Il n'y a plus de politique africaine de la France. Et Thomas Gomard, est-ce que ça n'est pas un petit peu étrange finalement d'avoir cette formule ? Autant dire la fin de la France-Afrique, on peut comprendre. Autant parler de la fin de la politique africaine, c'est comme si on disait qu'il n'y a plus de politique, je ne sais pas moi, transatlantique, il n'y a plus de politique européenne, il n'y a plus de politique arabe de la France. Non, parce que ces politiques, il faut bien les qualifier d'une manière ou d'une autre.
Non, parce que si vous voulez, je pense qu'en disant cela, l'idée est de souligner la diversité du continent européen. Du continent africain, excusez-moi du lapsus, mais également la diversité du continent européen. 54 pays sur le continent africain, et par conséquent, parler d'une politique africaine avec des sous-ensembles aussi différents que, je ne sais pas, ce qui peut se passer en Afrique du Sud par rapport à l'Afrique francophone ou Kenya, Tanzanie, je pense que c'est assez bien vu.
Mais on pourrait dire la même chose de la politique arabe dans ce cas-là.
Oui. Oui, oui, absolument. Mais en ce qui concerne la politique sur le continent africain, je pense qu'il y a la prise de conscience, si vous voulez, que c'est là que se concentrent vraiment les grands défis des 3 ou 4 prochaines décennies. C'est-à-dire qu'on a une dimension démographique avec la nécessité de trouver au fond des emplois pour 450 millions d'emplois créés d'ici 2050, ce sont les chiffres qui ont circulé. Problématique du changement climatique, c'est-à-dire que c'est le continent qui va être le plus affecté par le changement climatique. Problématique migratoire, problématique de sécurité et de développement. C'est-à-dire qu'en même temps, dans le discours d'Emmanuel Macron, et là c'est peut-être aussi son propre parcours qu'il explique, une attention très particulière portée autant à tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat en Afrique, le fait qu'il y a des signaux aussi de pays africains qui sont en train de franchir un saut technologique, de passer des étapes technologiques de manière beaucoup plus rapide que prévu. Et donc c'est aussi, je dirais, un continent d'opportunités et je pense que ce voyage s'inscrit aussi dans cette logique-là. Et en ce sens, c'est peut-être une rupture.
Alors ce voyage, il fait partie de tout un agenda diplomatique pour Emmanuel Macron qui ne le conduit pas seulement en Afrique. Je précise d'ailleurs que la semaine prochaine, il sera en Afrique du Nord. Hein, il y a un voyage en Algérie. Ensuite, il va se retrouver en Inde. Il y a eu un certain nombre de rencontres depuis qu'il est à l'Elysée avec des dirigeants. Vladimir Poutine qui est venu à Versailles. Donald Trump a été invité pour le défilé du 14 juillet. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui, après un peu plus de 6 mois au pouvoir, on arrive à caractériser ce que serait la politique étrangère selon Emmanuel Macron, Brice Couturier?
Oui, je vais vous faire votre transition avec le sujet africain. À Ouagadougou, Macron a dit « Je ne vous donnerai pas de leçons de démocratie, mais c'est mon rôle d'être aux côtés de ceux qui travaillent au quotidien à rendre la démocratie et l'état de droit irréversibles. » Or, ce que disent la plupart des spécialistes de relations internationales, ce que je ne suis pas, c'est qu'effectivement, il y a une rupture avec une certaine forme d'idéalisme de la politique de François Hollande et de Laurent Fabius. Nous avons eu une politique, on l'a bien vu à propos de la Libye, qui a été héritée de celle de Sarkozy et de Kouchner, qui valorisait la défense des droits de l'homme et de la démocratie, et qui ne faisait pas passer au premier rang les intérêts nationaux et les intérêts européens. Il est clairement assumé avec Macron un retour à une politique des grands intérêts nationaux et européens, car n'oublions pas que face à l'affaiblissement de la chancelière allemande, incapable de former une coalition en Allemagne, Macron assume d'une certaine mesure, enfin c'est ce que disait think tank américain, un leadership européen qui ne lui revenait pas d'office. Donc cette idée qu'il y a les droits de l'homme, la démocratie, et qu'est bien entendu la France doit être aux côtés de ceux qui luttent pour cette démocratie et ces droits de l'homme, c'est très important, mais il y a par ailleurs, et peut-être avant, et on l'a vu avec Sissi, c'était très clair, ça a choqué beaucoup les défenseurs des droits de l'homme.
Le président égyptien.
Le maréchal Al-Sissi, le moins qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un grand défenseur des droits de l'homme. Il y a beaucoup de gens torturés en prison dans son pays. Et Macron a dit, je ne vous donnerai pas de leçons sur la manière de faire respecter les droits de l'homme dans votre pays. Donc on voit bien que cet aspect est devenu secondaire par rapport à la défense des intérêts. Il y a quelqu'un qui, sur le site de Carnegie Endowment, vient de faire un papier très intéressant. C'est une femme qui dit, elle dit que dans le cas de Macron, on a affaire à une combinaison de réalisme résolu et d'idéalisme passionné. Je pense qu'on est toujours dans le système ricœurien de « et en même temps ». Il y a à la fois la défense de la démocratie et des valeurs européennes fondamentales et à la fois la défense des intérêts. La question que j'aimerais poser à ceux qui sont vraiment spécialistes, comme Laurent Gomard.
Thomas Gomard.
Je confondais avec Fabius, évidemment. Quelle va être véritablement la priorité ? Quand on va trouver, et c'est fréquent, des moments où les intérêts européens ou nationaux contredisent notre vocation française à défendre les droits de l'homme à travers la planète, qu'est-ce qui va primer ? Est-ce que c'est au cas par cas ?
Alors écoutons la réponse de Thomas Gomard.
Bon, je suis assez d'accord avec ce que vous avez indiqué sur l'évolution du balancier. Il y avait eu des formules très frappantes, à la fois sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, indiquant ce primat donné aux valeurs et une sorte d'ellipse sur la notion d'intérêt. L'une qui m'a le plus frappé, c'est lorsqu'il explique sa décision d'intervenir au Mali en janvier 2013. Il est à Abu Dhabi et il dit, François Hollande dit, nous n'intervenons pas au Mali parce que nous avons des intérêts. Nous n'en avons aucun. Nous intervenons parce que nous avons la capacité d'intervenir. C'est pour moi une sorte de déclaration par l'absurde qui est, à mon avis, à souligner parce qu'elle nous oblige à rappeler qu'une politique étrangère, et en particulier chez nos partenaires ou adversaires, repose sur des intérêts, des valeurs et un système d'alliance. Alors pour répondre à
c'était aussi une intervention qui était liée à une demande qui avait été formulée, non ?
Oui, absolument. Mais ce qui était intéressant, c'est de soustraire dans le discours présidentiel la notion d'intérêt, alors qu'il n'y a pas un discours présidentiel, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou dans des pays européens qui soustrait à ce point la notion d'intérêt comme ça a pu être le cas sous François Hollande et d'une autre manière sous Nicolas Sarkozy. Mais pour répondre à la question de Brice, moi je pense que la priorité très claire, c'est la relation avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'au fond, Emmanuel Macron est le seul homme politique à avoir été élu dans les conditions que nous connaissons, c'est-à-dire aussi avec un nombre de voix relativement un peu important au premier tour, mais avec un discours pro-européen assumé, alors que les autres ont d'une certaine manière transigé avec la question européenne depuis des années. Et de ce point de vue-là, pourquoi je dis la relation avec l'Allemagne, c'est qu'il y a cette prise de conscience que le leadership de la France au sein de l'Union européenne dépend en grande partie de son redressement économique et d'un équilibre meilleur avec l'Allemagne. Donc pour moi, c'est assez clair. Et si je devais résumer, si vous m'en laissez le temps, au fond, en tendance, les trois lignes de force de la politique étrangère française, je serais tenté de dire qu'il y a quelque chose qui a commencé il y a 100 ans, en 1917, qui est l'EP3, c'est-à-dire cette relation très spécifique entre Paris, Londres et Washington, trois démocraties, qui va connaître différentes phases pendant tout le XXe siècle, mais qui reste aujourd'hui tout à fait cruciale, notamment dans le domaine nucléaire, notamment dans le domaine du partage d'informations, dans la manière de conduire des opérations, trois pays membres permanents du Conseil de sécurité. La deuxième ligne de force, c'est la construction européenne basée sur la réconciliation franco-allemande. Et là, il y a un déport, parce que sur le premier sujet, évidemment, on ne peut pas le penser de la même manière après le Brexit et après l'élection de Donald Trump. Et puis le troisième sujet qui, à mon avis, est la grande cause, en fait, peut-être pas encore formulée d'Emmanuel Macron, mais c'est la défense du multilatéralisme. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation tout à fait inédite où le multilatéralisme, donc le cadre onusien, les organisations internationales, le fait d'associer les petits pays, les moyens pays, etc., est remis en cause directement par les trois principaux pays que sont la Chine, les États-Unis et la Russie. Et ça, ça me semble être au fond peut-être un axe pour la politique étrangère française dans les années qui viennent.
Et lui-même semble d'ailleurs assez bien incarné cette idée du multilatéralisme, puisqu'on voit bien qu'il semble décidé à parler à tout le monde et ne pas forcément privilégier une relation au détriment d'une autre, mais peut-être qu'il y a un rééquilibre aussi qui est en train de se passer avec la Russie, par exemple, justement en acceptant de recevoir Vladimir Poutine. Également au Moyen-Orient, on a beaucoup dit que sous Sarkozy, on avait trop privilégié le Qatar, sous Hollande, trop l'Arabie Saoudite. Peut-être que là, on assiste à un rééquilibrage. Sylvain Bourmeau.
Oui, 6 mois, c'est vraiment court pour juger de cette politique étrangère. À mon avis, on est obligé de s'en tenir à quelques discours prononcés et puis à des choix d'agenda, à des calendriers de visites, de voyages, de réceptions. Il faut laisser un peu de temps. Sur la question des intérêts et de l'intérêt de la France, plus explicitement assumé, exprimé dans des discours. Peut-être je risque une hypothèse. Au fond, c'est assez logique, s'agissant d'Emmanuel Macron, dont on pourrait se dire qu'au-delà même de la politique étrangère, c'est quelqu'un qui, de manière relativement décomplexée, a parlé pour les intérêts auprès de ses électeurs, par exemple. Et les choix de politique économique ou de politique fiscale qu'il fait, qui privilégie des gens qui ont de l'argent, on va dire, ne sont pas nécessairement les mêmes que certains discours de gauche qui mettaient en avant des formes d'altruisme. C'est-à-dire que là où on pouvait trouver des gens de gauche qui étaient prêts à voter à gauche, quitte à aller contre leurs intérêts économiques en votant à gauche. Ce qui s'est passé dans un certain nombre de très grandes villes, hein, où on voit des gens qui habitent ces centres-villes, qui gagnent très bien leur vie et qui, pour des questions de valeur, ont élu à la tête de ces villes des responsables politiques de gauche.
Macron arrive un peu en rupture. Une politique de cohérence entre l'extérieur et l'intérieur.
Moi, je l'interprète un peu comme ça. Macron arrive en rupture avec cette position de gauche que certains qualifient, avec ce mot qui ne veut plus dire grand-chose, de bobo, au fond, mais qui traduit ça. C'est-à-dire le fait qu'au fond, le capital culturel est plus important au plan des valeurs que le capital économique, et que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de capital économique qu'on ne peut pas être sur des positions altruistes de gauche sur la politique économique. Au fond, Macron s'inscrit un petit peu en rupture avec ça, en disant faut pas avoir honte de gagner de l'argent et faut pas avoir honte de mettre en place des politiques économiques qui privilégient les gens qui gagnent de l'argent. Et donc voilà. Donc cette question d'intérêt, moi, j'aurais envie de la relier. Deuxième point. Encore une fois, il est un peu tôt pour évaluer, surtout que Emmanuel Macron ne s'est pas trouvé encore dans une situation de crise. Qu'aurait fait Emmanuel Macron au moment où François Hollande a décidé, ce qui, de mon point de vue, a été une chose très importante et une bonne décision, d'intervenir au Mali? Qu'aurait fait Emmanuel Macron? Je suis incapable de répondre à cette question. Et il faudra attendre une crise éventuelle pour voir comment il, comme président, réagira. Aujourd'hui, on n'a pas ce type d'élément encore. Les 6 mois qui se sont écoulés ne nous ont pas donné l'occasion de mesurer, d'appréhender ce que pourra être la carrure, en quelque sorte, internationale d'un Emmanuel Macron dans ce type de situation, parce que tout simplement, il n'a pas eu l'occasion de la connaître. Ce n'est pas un reproche que je lui adresse. C'est juste que c'est comme ça.
François Hollande a d'ailleurs raconté à quel point, justement, cette intervention au Mali lui avait révélé ce que pouvait être, justement, sa politique africaine. Et il expliquait d'ailleurs à la fin de son mandat que ça avait été peut-être le moment le plus fort de
même sa politique étrangère. Sûrement une des décisions les plus importantes qu'il a eu à prendre pendant ces 5 ans.
Thomas Gomard, qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez écrit un livre qui s'appelle Notre intérêt national, de l'hypothèse que vient d'émettre Sylvain Bourmeau sur cette notion qu'aurait Emmanuel Macron à propos de l'intérêt et sur la scène extérieure et sur la scène intérieure?
Je la trouve stimulante, mais je l'aborde différemment dans l'ouvrage. Elle est stimulante parce qu'au fond, la notion d'intérêt, c'est ce qui permet de compter, de décompter. Dans l'introduction de l'ouvrage, on fait une généalogie en repartant de Machiavel, et en fait il y a deux éléments à retenir. C'est que la notion d'intérêt permet de distinguer le champ du moral du champ du politique, et ce que l'on peut faire dans l'un, on ne le fait pas dans l'autre. Bon, ça c'est intégré par tous les hommes politiques, très bien. Et puis il y a une deuxième notion qui n'est pas intégrée, ou plutôt un deuxième principe qui n'est pas intégré, c'est que l'intérêt individuel, c'est ce qui permet de contrôler ses émotions, ou ses passions, comme disait Machiavel.
Ou Albert Hirschman.
Voilà, exactement, auquel on se réfère aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que, au fond, quand on raisonne en termes d'intérêt, c'est peut-être une manière d'essayer de limiter les effets de la communication. Et si on cherche à trouver des manières de caractériser les années Sarkozy et les années Hollande en politique étrangère, ce sont des années qui ont été marquées par une très forte émotion, en quelque sorte, ou réaction aux émotions. Bon. Et donc je pense que la notion d'intérêt est utile parce qu'elle permet de tenir à distance un certain nombre de choses. Et ça, en ce sens, effectivement, Emmanuel Macron, à mon avis, va dans cette direction. Si vous voulez, la notion d'intérêt sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande a été logée en quelque sorte uniquement dans la notion d'intérêt vitaux, c'est-à-dire pour tout ce qui avait trait au nucléaire. Et à mon avis, il faut la renouveler, la repenser sur des dossiers plus régionaux pour permettre une approche graduelle, en quelque sorte. Si vous êtes sans approche graduelle sur un dossier comme la Syrie, eh bien, très rapidement, vous allez avoir une approche pour, contre, très binaire et très assise sur un discours de valeur. Un mot supplémentaire sur l'intervention. Ce qui est quand même très intéressant à noter, c'est la disparition dans le discours d'Emmanuel Macron, et c'est tout sauf un hasard, de la notion de guerre contre le terrorisme, qui était au fond la formule utilisée par François Hollande, la France est en guerre, hein, ce qu'il déclare après les attentats du Bataclan, et ça me semble être, en termes conceptuels, sur la manière de penser le conflit et l'affrontement, une évolution très positive.
Et j'ajouterais, si vous me permettez, un progrès intellectuel pour la compréhension du phénomène auquel on est...
Absolument.
Brice Couturier.
Il y a quand même quelques succès déjà qu'on peut noter en dehors des proclamations et des déclarations d'intérêt. Un de ceux qui me paraît le plus évident, moi qui ai vécu une partie de ma jeunesse au Liban, c'est d'aller rechercher Saad Hariri en Afrique, en Arabie Saoudite, et de le remettre sur place au Liban. Là, je pense que Macron a fait preuve d'autorité, d'indépendance, et qu'il a gagné un point. Je peux vous dire qu'au Liban, aujourd'hui, il est félicité pour cette action. Parce qu'effectivement, les Saoudiens retenaient pratiquement prisonnier Saad Hariri, dont ils pensaient qu'il n'était pas suffisamment ferme à l'égard du Hezbollah. Et Saad Hariri est de retour chez lui au Liban. Il n'est plus considéré comme une espèce de prisonnier de facto des Saoudiens.
C'est-à-dire que pour Macron, la France est aussi une force de médiation.
Oui, alors ça, c'est très important. Je pense effectivement que Macron considère que le rôle de la France et de l'Europe en général, et c'est un rôle de médiateur entre l'Occident et la Russie. Il affiche son indépendance vis-à-vis de Trump et des États-Unis. Il n'a pas de mal parce que les États-Unis sous Trump nous laissent vraiment tomber. Or, les sujets de friction avec Moscou ne manquent pas, hein, que ce soit l'Ukraine, la course aux armements dans la Baltique, qui devient très préoccupante, la Moldavie, etc. Et Macron a annoncé qu'il allait se rendre, qu'il participera en mai 2018 au forum de Saint-Pétersbourg. Donc, il a affiché sa fermeté à l'égard de Poutine quand il l'a reçu. Hein. Il n'a pas caché l'exaspération qu'avait provoqué chez lui le fait que les médias de propagande russe avaient fait campagne contre lui, avaient tenté une opération de déstabilisation digne de celle qu'ils ont tentée contre Hillary Clinton. Mais c'est ça qui est intéressant chez Macron, c'est qu'il dit leur fait aux gens. Il a dit à Trump aussi très clairement ce qu'il pensait de lui sur l'accord de Paris sur le climat. Il n'est pas arrivé à le faire fléchir sur ce sujet par ailleurs. Mais la fermeté et la sincérité n'empêchent pas la volonté de médiation. La question, c'est est-ce que l'Europe sera derrière la France pour servir effectivement de médiateur dans un certain nombre de dossiers extrêmement chauds qui nous opposent effectivement, qui nous confrontent à la Russie. Il y a aussi la question de l'Iran, là, il faudrait peut-être qu'on l'aborde, le fait que là aussi il s'oppose aux États-Unis, il s'oppose à Trump qui veut un raidissement à l'égard de l'Iran, et que là encore, la médiation, Macron tente une médiation entre les puissances sunnites du Golfe et l'Iran chiite, et qu'il ne penche pas, comme le faisaient ses prédécesseurs, d'un côté plutôt que de l'autre.
Thomas Gomard, cette volonté de faire de la France une force de médiation telle que l'a décrit Brice Couturier, d'abord, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous y voyez une révolution, ou bien est-ce qu'on pourrait aussi considérer ça comme peut-être un retour en arrière, alors avec un style un peu plus moderne, mais une politique gaullienne qu'aurait abandonné ses prédécesseurs, en particulier et Nicolas Sarkozy et François Hollande?
Oui, alors, dans les milieux d'experts des relations internationales, il y a tout un débat sur le retour ou non du gaulo-mitterrandisme et un débat également sur la pertinence de cette notion de gaulo-mitterrandisme. Bon. Moi, j'avoue que c'est à mon sens pas tellement là que ça se joue. Une politique étrangère, c'est un lourd paquebot auquel on ne fait pas faire des à-coups. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans la gestion d'un héritage et la question, c'est comment, au fond, on trouve une nouvelle rente pour ensuite avoir des déclinaisons diplomatiques pendant plusieurs années. Je pense que une des nouvelles rentes trouvées par la diplomatie française, il faut d'ailleurs rendre hommage à François Hollande là-dessus, c'est par exemple la lutte contre le changement climatique. On sent bien que sur la problématique des biens communs, au fond, la diplomatie française est très en avant et que dans les années qui viennent, ça sera un axe extrêmement important de son action. Donc pour en revenir sur, je vois pas du tout de révolution en ce sens. Je vois en revanche beaucoup plus de préparation. Voilà, je pense que Emmanuel Macron, à la différence de ses deux prédécesseurs, prépare beaucoup plus ses interventions, prépare beaucoup plus ses discours. Et en ce sens, peut-être, c'est un point de désaccord avec Sylvain Bourmeau. C'est-à-dire, je pense que le verbe est extrêmement important et qu'on sort peut-être aussi d'une période où il y avait une attente très forte d'une parole française un peu forte et qu'il la porte. Et il l'apporte plutôt bien, de manière très, très construite. Maintenant, si vous voulez, je ne pense pas que ce soit un retour à une période un peu, comment dirais-je, idéalisée, la période du général de Gaulle, parce que tout simplement, le monde a complètement changé. Je veux dire, la France aujourd'hui, c'est moins d'1% de la population mondiale, c'est moins de 2,5% de la richesse mondiale. C'est 15% des transferts sociaux mondiaux. Donc avec ça, quand on voit l'évolution, l'émergence d'États continents, si on ne pense pas l'avenir du pays à l'échelon européen, à l'échelle européenne, d'une certaine manière, on sait bien que l'influence sera de plus en plus réduite. Donc je pense qu'il est, il est illusoire, au fond, d'essayer de mettre ça, si vous voulez, comme une sorte d'écho direct à la période gaulliste ou à la période mitterrandienne.
Sylvain Bourmeau.
Oui, là, je rejoins Thomas Gomard sur ce type de catégorie d'analyse qui me semble relever de la facilité, mais ne sont pas très opérantes. C'est-à-dire que le monde a tellement changé que ça n'a plus aucun sens. Et je suis plus davantage d'accord avec ce que vous dites quand vous parlez de l'inertie considérable d'une politique étrangère. C'est-à-dire que lorsque vous insistez sur... la nature des discours, c'est-à-dire que certes les discours ça compte dans les politiques étrangères, mais encore une fois, c'est ce que je disais pour commencer, une politique étrangère finalement, si on veut bien l'évaluer, il faut avoir accès aux archives et donc ça nous amène dans le temps très long.
Mais juste une chose quand même, quand vous voyagez beaucoup, vous êtes quand même frappé de la différence aujourd'hui d'image de la France par rapport à il y a 6 mois, c'est sans comparaison. Donc déjà en cela,
au plan de l'image certainement.
Voilà, oui. Voilà, mais c'est important si vous voulez parce que là aussi on sort d'une période où on avait une image extrêmement dégradée.
Je peux vous faire une citation de la Deutsche Welle. Il projette l'image d'une France moderne sur la scène internationale. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites.
Eh ben vous savez quoi, je vous propose de terminer sur cette citation.
C'est la Deutsche Neue Welle.
La Deutsche Neue Welle.
Voilà, merci beaucoup Brice Couturier, merci à vous Sylvain Bourmeau et merci à Thomas Gomard d'avoir participé à cet épisode du Club des idées du grain. On rappelle le titre de votre ouvrage, Thomas Gomard. Alors vous l'avez écrit avant l'élection d'Emmanuel Macron, mais enfin, comme vous le disiez, il y a quand même un certain nombre de pesanteurs dans la politique étrangère française pour qu'on puisse encore le lire avec profit. Le titre, c'est
Notre intérêt national. Voilà. Quelle politique étrangère pour la France aux éditions Odile Jacob. Et c'est un collectif. Il y a 16 auteurs.
Voilà, 16 auteurs, donc beaucoup de contributions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter comme chaque soir sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain. Antoine Dulster, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Tricot et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son au Bel Air ici à Radio France, Pierre Monteil, Pierrick Charles et Tahar Bouklifa.